Frédéric Ancel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géopolitologue et vous publiez « Petites leçons de diplomatie » aux éditions Autrement. C'est sous-titré « Ruses et stratagèmes des grandes semondes à l'usage de tous ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer le comportement plutôt surprenant de Vladimir Poutine après que Moscou a été attaqué par des drones, ce qui montre la fragilité des défenses russes, et Poutine qui déclare que l'Ukraine cherche à terrifier la Russie, à intimider les citoyens russes. On l'aurait plutôt imaginé en train de bomber le torse.
Oui, c'est juste. Alors écoutez, il y a deux manières, en temps de guerre en tout cas, de développer sa propagande. Le premier type de propagande, c'est la triomphaliste. C'est-à-dire, comme vous l'avez bien dit, on bombe le torse, on raconte à ses citoyens que tout est sous contrôle, que de toute façon en face, on ment systématiquement et que ça y est, on est prêt d'atteindre le but et l'objectif bien évidemment assigné. C'est pas ce qu'a choisi Vladimir Poutine, et notamment pas après les 2-3 premiers mois beaucoup plus difficiles que ce qu'il avait bien évidemment imaginé, et à partir, a fortiori, des premières retraites. Lui a choisi le deuxième type de propagande, qui est une propagande victimiste. Regardez à quel point c'est difficile. Oui, mais pourquoi ? Parce que l'intégralité de l'OTAN est contre nous. Or, l'OTAN, c'est la principale alliance militaire au monde. D'ailleurs, nous avons vu sur le sol ukrainien des soldats noirs. Ça signifie bien que ce sont des Américains. Et ils essayent maintenant de nous terroriser jusqu'au cœur de notre système. Donc, vous, citoyens russes, défendez-moi. Je reste là parmi vous. Et nous nous battrons jusqu'à la mort. Fondamentalement, c'est ce qui a été choisi. Et ça permet quand même, alors il y a un avantage, ça permet à Poutine de ne pas paraître trop ridicule face à sa population et au contraire d'incarner le cœur de la résistance. Après, il y a un inconvénient. C'est tout de même le risque de l'humiliation. Si on arrivait à une situation militaire qui manifestement, voire sécuritaire au sein de la Fédération de Russie, qui manifestement le mettait en porte-à-faux par rapport à tout ce qu'on peut savoir d'un grand pays, en tout cas d'une grande armée, là effectivement il risquerait de chuter.
Et le rapprochement de l'Arabie Saoudite avec l'Iran, comment l'analysez-vous ?
Alors moi je pense que c'est un rapprochement voulu quasi exclusivement par l'Arabie Saoudite. Pourquoi ? Parce que voilà un pays qui en 2015 a tenté de la jouer un petit peu à l'israélienne vis-à-vis des États-Unis, c'est-à-dire de jouer le gendarme, de jouer le pays qui pouvait très bien sur le plan militaire aussi utiliser les armes stratégiques américaines. Or, notamment au Yémen, ça a été un fiasco total. Et plusieurs milliers d'engins se sont abattus sur le sol saoudien. Ça a coûté des hommes, ça a coûté de l'argent, ça coûte de la crédibilité. Surtout lorsqu'on sait que ceux qui ont propulsé ces missiles et attaqué le sol saoudien, ce sont des va-nu-pieds. Ce sont les Houssis qui sont des rebelles soutenus par l'Iran. Et c'est là que je veux en venir. Autrement dit, pour Riyad, l'intérêt, c'était de stopper cette espèce de mini-Vietnam, en quelque sorte, pour pouvoir développer ce que développe aujourd'hui l'Arabie Saoudite, à savoir un pôle ou un hub touristique très important, l'après-pétrole, etc. Bon, tout ce qu'on veut. Et pour cela, il fallait que l'Iran cesse de soutenir cette rébellion. Et je pense qu'il ne s'agit pas, contrairement à ce qu'on dit un peu rapidement ou paresseusement beaucoup d'observateurs, il ne s'agit pas d'une nouvelle alliance. Il s'agit simplement du retour à des ambassadeurs croisés, à des drapeaux dans des ambassades pour l'instant à moitié vides. C'est quand même pas une véritable révolution. Mais je pense que les Saoudiens en avaient beaucoup plus besoin que les Iraniens.
Et ça ne contrarie pas les Israéliens ?
Alors écoutez, Netanyahou, lui, n'a jamais cessé ces dernières années d'affirmer que dans le cadre des accords d'Abraham, signés il y a 3 ans et demi par 4 pays arabes avec Israël, des accords de reconnaissance, dont le Maroc, il n'a jamais cessé d'affirmer que la cerise sur le gâteau, le point d'orgue à ces accords d'Abraham réussis par lui-même, ce qui n'est pas faux, et bien ce serait l'Arabie Saoudite, le gros morceau, le plat de résistance. Et j'ai toujours considéré qu'il s'avançait beaucoup, notamment pour des raisons électoralistes, parce que les Saoudiens, ils ont intérêt à obtenir des renseignements d'Israël, ce qu'ils obtiennent vraisemblablement, peut-être aussi des touristes, mais certainement pas de l'autre côté à s'attirer les foudres des plus violents parmi les salafistes qui verraient d'un très mauvais œil un drapeau israélien planté à Riyad. Donc pour l'instant, les Saoudiens n'ont jamais donné suite aux promesses israéliennes, enfin faites par Netanyahou à son propre peuple. Donc moi je ne crois pas que cette réactivation des relations diplomatiques entre Riyad et Téhéran est un rapport direct avec Israël. J'ajoute un point, si vous le permettez, c'est que s'il devait y avoir une confrontation directe entre Israël et l'Iran à cause du dossier nucléaire iranien, de toute façon, avec ou sans reconnaissance d'Israël par l'Arabie Saoudite, et avec ou sans ce retour diplomatique entre Riyad et Téhéran, je veux dire que les Israéliens, ils le feront. Donc ils n'ont pas besoin de toute façon de l'accord des Saoudiens.
et la réintégration de la Syrie de Bachar el-Assad au sein de la Ligue arabe, dont elle avait été exclue en 2011, il y a 12 ans maintenant, hein, au début de la guerre civile. Dans vos petites leçons de diplomatie, Frédéric Ancel, comment pouvez-vous nous l'expliquer ?
Je l'explique douloureusement. Là, vous adressez un géopolitologue qui se fait fort d'être un humaniste. Je pense que le retour d'Assad dans le giron de la Ligue arabe, et peut-être et sans doute au-delà, signifie de manière terriblement claire qu'en matière géopolitique, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Et que si vous n'avez pas le choix, ou plus exactement et plus terriblement, si vous considérez que ça vous rapportera davantage que ce que ça ne vous coûtera à la fois en point diplomatique, en point militaire, que sais-je encore, en termes de marché de drogue, pour ce qui concerne la Syrie, etc. Bref, si c'est meilleur pour votre État de passer un accord avec le diable, eh bien vous allez le faire. Et je suis de ceux qui, d'un point de vue citoyen, contestent au dernier degré cette réalité, mais je ne peux pas la nier. Je ne peux pas la nier. Et malheureusement, on voit bien que cela existe. Ce n'est pas nouveau dans l'histoire, hein. Mais si aujourd'hui il existe sur cette planète un criminel particulièrement odieux, c'est bien évidemment Assad. D'ailleurs, tout le monde le sait parmi ceux qui aujourd'hui lui serrent la main, mais ces gens-là ont besoin, puisqu'il est toujours au pouvoir, Assad, c'est le principe suprême de réalité. Bon, eh bien, ils ont besoin de l'avoir plus tôt avec eux que contre eux.
Frédéric Ancel, on fait une pause et on continue tout de suite après avec la Chine et puis la France, bien sûr.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Frédéric Ancel publie « Petite leçon de diplomatie » aux éditions Autrement, « Ruse et stratagème des grandes ce monde à l'usage de tous ». Alors, on va tâcher d'en user, par exemple, le comportement de la Chine à l'égard de la Russie dans la guerre en Ukraine. Pas de vote de soutien à l'ONU, pas de livraison d'armes. Le site américain Politico a fait tout un pataquès sous prétexte qu'une entreprise chinoise avait envoyé 1000 fusils d'assaut, des gilets pare-balles et des pièces de drone. Mais enfin, 1000 fusils d'assaut, c'est absolument rien en comparaison de ce que nous, occidentaux, livrons à l'Ukraine. Alors comment vous expliquez ce comportement de la Chine ?
Ah, je l'explique par un pragmatisme sur des temps longs, cher à l'historien Fernand Braudel. Les Chinois sont extraordinairement prudents, quelle que soit d'ailleurs la nature de la dynastie ou en tout cas du pouvoir qui s'exerce à la tête de la Chine. C'est très intéressant. Sur des temps très longs, là je vous parle de pratiquement 24-25 siècles, depuis au moins le stratège chinois Sun Tzu. Les Chinois, un, sont très prudents et très pragmatiques en matière de guerre et de paix. Deux, ils ne se lient que très exceptionnellement les mains avec des alliés. Et entre parenthèses, quand ils ont des alliés, c'est pas des losers. Trois, les Chinois jouent systématiquement le balancier, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'ils refusent d'apparaître comme appartenant à un camp ou à un autre, et ils essayent d'affaiblir, pas forcément d'ailleurs via la guerre, hein, pas forcément via les armes au sens traditionnel du terme, les uns et les autres, pour finalement apparaître comme les premiers. Et je pense que le partenariat de la Chine avec la Russie aujourd'hui, qui n'est absolument pas une alliance, alors là aussi, je conteste très fortement le galvaudage de ce terme qu'on emploie à tort et à travers, il n'y a aucune alliance formelle ou informelle entre Pékin et Moscou, j'insiste là-dessus. Donc ce partenariat, effectivement, qui est un partenariat assez léger, hein, eh bien, il consiste à terme, d'une part, à montrer aux États-Unis que malgré tout, y a un bloc face à eux, ce qui n'est pas évident, mais enfin, en tout cas, on joue cela du côté de Pékin, mais surtout, à plus long terme, ça consiste à vassaliser la Russie. C'est ça la vérité, c'est qu'à la fin des fins, l'économie russe, elle va passer petit à petit sous souveraineté chinoise, un peu à l'africaine, même si le terme est peut-être un petit peu exagéré pour l'instant. Et in fine, je me permets quand même de rappeler à vos auditeurs que parmi les traités inégaux contestés par la Chine, hein, dans le cadre de ce fameux siècle de l'humiliation, qui a été d'ailleurs tout à fait objectivement humiliant pour les Chinois, du fait des Occidentaux et des Russes, eh bien il y a la Russie. Et les Chinois contestent l'établissement de cette frontière en 1860, en Mandchourie septentrionale et en Sibérie orientale, donc là on est vraiment près du Kamtchatka si vous préférez, et les Chinois à terme revendiqueront ce territoire. Donc moi je considère qu'effectivement il n'y a pas d'alliance et que la Chine joue de toute façon son propre jeu, et pour l'instant franchement c'est pas le jeu de l'alliance avec Moscou.
La France maintenant, Emmanuel Macron a maintenu le plus longtemps possible le contact avec Vladimir Poutine. Il s'est rendu récemment en Chine pour rencontrer Xi Jinping. Il est le premier chef d'État français à s'être arrêté en Mongolie. Et le premier ministre indien, Modi, sera l'invité d'honneur du défilé du 14 juillet. Que cherche le président de la République, à votre avis ?
Alors, à mon avis, Emmanuel Macron cherche à maintenir la France sur le ring des poids lourds. Alors après, est-ce qu'on en a encore les moyens? Objectivement, non. Est-ce que c'est un problème crucial? Non. Parce que je pense personnellement, et c'est mon adage favori en géopolitique, que la démonstration de force vaut force, en tout cas qu'elle peut valoir force. Et j'inverse, si vous voulez, le postulat, ou je le dis différemment, le pouvoir qu'on vous prête vous en donne. Si aujourd'hui les grands, et notamment la Chine et les États-Unis, et en particulier la Chine dans l'Indo-Pacifique, continuent à considérer la France, à tort ou à raison, c'est pas le problème, comme une grande puissance, et si les Chinois continuent à laisser nos rares et modestes frégates passées par leurs eaux territoriales souveraines, en tout cas c'est comme ça que les Chinois voient le détroit de Taïwan, bien évidemment, voilà. Et bien, ça signifie qu'ils acceptent d'une façon ou d'une autre que nous continuions à jouer dans la cour des grands. Mais pour ça, il faut déployer une diplomatie tous azimuts. C'est-à-dire que si vous n'avez pas suffisamment de fonds, si vous avez une démographie qui est relativement limitée, si vous avez moins d'alliances qu'auparavant, si vous ne faites pas beaucoup d'hydrocarbures, voire pas du tout, etc., bah écoutez, il ne reste pas grand-chose. J'allais dire qu'il reste le verbe. Et je dois dire que de ce point de vue-là, Emmanuel Macron ne tranche pas avec ses prédécesseurs. On cite souvent De Gaulle. On pourrait très bien remonter à Richelieu. Et je vous passe Hugues Capet parce que c'est vous. Hein. Si vous voulez, l'État français s'est toujours représenté comme devant être, en interne comme à l'extérieur, comme un État puissant. Il s'est toujours représenté comme tel. Et je pense qu'Emmanuel Macron, de ce point de vue-là, alors en tentant de s'appuyer sur l'Europe puissance, pour le coup, en tentant de mutualiser, bien évidemment, je pense qu'il n'est pas très original, en quelque sorte.
Non, mais le général de Gaulle a réussi, lorsqu'il était président de la République, à faire de la France une véritable puissance mondiale entre les États-Unis et l'URSS, grâce à une indépendance revendiquée, une diplomatie très active et à une force militaire régénérée par l'arme nucléaire. Emmanuel Macron est sur la même ligne, vous avez raison, mais quand il parle d'une Europe de la défense qui serait le pilier européen de l'OTAN, personne ne semble l'écouter. Pourquoi est-ce qu'on l'écoutait De Gaulle et pas ses successeurs ?
Je pense que nous avons de moins en moins de moyens. C'est ce que j'appelle dans mon bouquin une grande puissance pauvre. Et vous mettez des petits tirets partout. Une grande puissance pauvre, c'est un concept en soi. Et nous sommes de plus en plus pauvres, en part absolue, mais également relativement à des États qui, eux, montent en puissance. Je pense évidemment à la Chine, bien évidemment, mais je pense aussi à l'Inde et peut-être à quelques autres pays de ce type-là. Et par conséquent, vous ne pouvez pas vous prévaloir du même ring perpétuellement en n'alignant plus les mêmes billes, si vous voulez, ou les mêmes cartes. Donc il faut redoubler d'ingéniosité en matière diplomatique, mais aussi, il faut, à mon avis, aller vers des alliés, vers d'autres alliés, et des alliés qui vous permettront de mutualiser les ressources, les forces sur un certain nombre de théâtres d'opération. J'ajoute un dernier point, c'est que De Gaulle, effectivement, vous l'avez bien dit, jouait l'indépendance. Mais attention, entre deux pôles qui, à l'époque, étaient radicalement opposés, c'était réellement une guerre froide. Et puis, à l'URSS, c'était une vraie, très grande puissance, ce que n'est plus aujourd'hui la Russie. Enfin, dernier point, dernière divergence, à mon avis, enfin, en tout cas, je mettrai une nuance. En 62, la crise des missiles de Cuba, ah, ça a été vite vu, hein. De Gaulle s'est rangé, comme de bien entendu, immédiatement dans le giron, ou sous le giron, si vous préférez, américain et occidental. Donc l'indépendance de la France sous De Gaulle, oui, mais avec quand même un mais, et ce mais, il ne nous a jamais quittés.
Merci Frédéric Ancel.
Merci à vous.
Je rappelle le titre de votre livre, Petite leçon de diplomatie, c'est paru aux éditions Autrement. On fait une pause et on se retrouve tout de suite après avec Loïc Bollache. On continue de parler de la guerre, mais la guerre faite par les animaux.
Europe 1,
c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.